Radio France Internationale, il est 23h à Paris, 21h en temps universel.
Mathis Limano.
Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition largement consacrée à la situation au Proche-Orient. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais, a été tué vendredi dans des frappes israéliennes sur Beyrouth. L'embrasement régional craint par les Occidentaux semble inévitable. L'Iran a déclaré que la mort d'Hassan Nasrallah entraînera la destruction d'Israël. Du côté des États-Unis, on continue de soutenir l'action de l'État hébreu. Au sommaire également, l'Ukraine, de nouveau la cible de drones russes. 9 morts et une vingtaine de blessés dans la région de Soumy, où un hôpital a été frappé à 2 reprises. Et puis aux États-Unis, après le passage de l'ouragan Helene, des millions d'Américains sont encore sans électricité. Vous l'entendrez, elle reviendra plus tard pour les plus démunis. Bienvenue. L'information de ce samedi, c'est évidemment la mort d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah. D'abord annoncée par l'armée israélienne dans la matinée, elle a été confirmée par le Hezbollah dans la journée. Son chef a bien été tué dans une série de bombardements sur Beyrouth vendredi soir, a expliqué le mouvement. Un tapis de bombes s'était abattu dans la banlieue sud de la capitale libanaise où se trouve le fief du Hezbollah. Paul Khalife, en l'espace de 2 semaines, Israël a changé les règles du jeu en éliminant le secrétaire général du parti et la plupart de ses hauts commandants militaires.
En combinant les assassinats ciblés et l'intensification des frappes aériennes, Israël a mis une énorme pression sur le Hezbollah. En l'espace de 2 semaines seulement, l'armée israélienne a tué le secrétaire général Hassan Nasrallah, un nombre encore indéterminé de hauts responsables politiques et militaires lors de la frappe survenue vendredi, et la plupart de ses hauts commandants militaires. En juin et juillet, elle avait réussi à éliminer les chefs de 2 des 3 unités territoriales déployées dans le sud du Liban et le commandant suprême Fouad Choukr. Il faut ajouter à cela plusieurs milliers de réservistes du Hezbollah blessés dans l'explosion des beepers et des talkie-walkie mardi 17 et mercredi 18 septembre. Et pourtant, même décapité, le Hezbollah ne semble pas avoir été mis KO. Le parti poursuit ses opérations militaires contre Israël, même si leur rythme a baissé. Ce samedi, il a revendiqué le tir de dizaines de roquettes dans 5 opérations. Ses médias continuent de fonctionner, de même que ses principales institutions sociales. Reste à savoir s'il s'agit d'un baroud d'honneur ou d'une volonté tenace de continuer le combat. Les prochains jours nous le diront. Paul Khalife, Beyrouth. RFI.
Réaction en cascade après l'annonce de la mort d'Hassan Nasrallah. Celle d'Israël, d'abord, lors d'une allocution télévisée, Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël a réglé ses comptes avec le Hezbollah, qu'Israël se trouve à un tournant historique après l'élimination d'Hassan Nasrallah. Sa mort va faire avancer le retour des otages à Gaza, a rajouté le premier ministre israélien. Réaction aussi du premier allié d'Israël, les États-Unis. L'assassinat d'Hassan Nasrallah est une mesure de justice pour ses nombreuses victimes, dont des milliers de civils américains, israéliens et libanais, a expliqué Joe Biden via un communiqué. Washington, qui par ailleurs a ordonné samedi l'évacuation des familles des diplomates américains au Liban. Le Liban, où 3 jours de deuil national ont été décrétés à partir de lundi, 5 jours en Iran. Dans la région, le chef des rebelles houthis au Yémen affirme que la mort de Hassan Nasrallah ne sera pas vaine. Ils affirment ce soir avoir tiré un missile sur l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Les autorités syriennes condamnent une agression méprisable et sans être exhaustif, le vice-président iranien avertit que cet assassinat du chef du Hezbollah entraînera la destruction d'Israël. Les frappes israéliennes au Liban se sont poursuivies ce samedi avec ce bilan, 33 morts et 195 blessés. L'Ukraine, de nouveau la cible de drones de l'armée russe. Plusieurs villes ont été touchées. Dans la région de Soumy, au nord-est du pays, au moins 9 personnes sont mortes, une vingtaine ont été blessées. 2 drones sont tombés à quelques minutes d'intervalle sur un hôpital. À Kiev, correspondance de Cerise Sudry-Ledu.
Les images sont glaçantes. Des personnes se réfugient dans un abri avant qu'un drone ne frappe à nouveau. Ce matin, à Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, un hôpital a été pris pour cible et de nombreuses photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de chaos, des nuages de fumée, des patients évacués sur des brancards dans des couloirs détruits ou des corps inanimés sous des couvertures de survie. C'est la technique de la double frappe qui a été employée, technique souvent utilisée par l'armée russe. La première frappe a visé plusieurs étages de l'hôpital, tuant une personne. Et la deuxième, une cinquantaine de minutes plus tard, a à nouveau visé l'hôpital que les services de secours étaient justement en train d'évacuer. L'hôpital comptait 86 patients, dont 15 à mobilité réduite, précise le directeur de l'établissement, et 38 personnes travaillaient à l'intérieur. Les autorités régionales ont précisé que les deux frappes ont été perpétrées avec des drones Shahed de fabrication iranienne. Cerise, Sudri-le-Du, Kiev, RFI.
La Russie fait la guerre aux hôpitaux, aux infrastructures civiles et à la vie des gens. Seule la force peut contraindre la Russie à la paix, a réagi Volodymyr Zelensky. 16h05 à Lima, au Pérou, où le gouvernement a décrété l'état d'urgence dans deux provinces, celle de Lima et Callao, en raison d'une grève dans les transports en commun qui paralyse notamment la capitale Lima. Les grévistes dénoncent l'extorsion et les menaces de gangs dont ils sont victimes. Ces transports ont fini par reprendre ce vendredi, car le gouvernement a promis de faire intervenir la police et l'armée dans les quartiers concernés. À Lima, Juliette Chénion.
Une réponse très attendue après un mois de tension avec 17 attaques et 3 conducteurs de bus tués, dont l'un assassiné au volant de son véhicule avec des passagers à bord pour avoir refusé de payer 1,50€ par jour à un gang. Le gouvernement promet de faire passer une loi jeudi prochain pour qualifier de terrorisme urbain l'extorsion, le recours aux tueurs à gages et les séquestrations. Un groupe spécial de la police doit aussi être créé, mais les représentants des syndicats de transport comme Martin Ojeda, interviewé ici par la chaîne locale Canal N, attendent de voir les résultats.
D'ici 60 jours, tout cela devra avoir baissé de manière significative. Dans le cas contraire, nous couperons les moteurs à Lima et Callao.
À Lima, des milliers de commerçants et d'entreprises sont touchés par l'extorsion. Le crime organisé est en train de gagner la bataille et détruit notre pays, ont ainsi déclaré une vingtaine de syndicats dans un communiqué vendredi. Plusieurs députés sont accusés d'avoir des liens avec les réseaux criminels et il y a 2 mois, le Congrès a modifié la loi relative au crime organisé, la rendant plus laxiste, d'après plusieurs juristes. Juliette Chénion, Lima, RFI.
Et ce triste record maintenant, l'Arabie Saoudite a exécuté 198 personnes en 2024, du jamais vu en plus de 30 ans. Derrière la Chine et l'Iran, c'est la monarchie du Golfe qui a exécuté le plus de personnes au cours de l'année dernière. Aux États-Unis, au moins 53 personnes sont mortes, plusieurs millions sans électricité. Le passage de la tempête Helene sur le sud-est a engendré de très lourds dégâts avec ces vents qui ont atteint jusqu'à 225 km/h. Vient désormais le temps des réparations et notamment électriques, mais pour certains, particulièrement dans les quartiers pauvres, il faudra attendre plus que les autres. Simon Rosé, c'est un phénomène bien documenté.
Rare par son ampleur, le passage destructeur d'Hélène laisse une bonne partie du sud-est des États-Unis groggy. Mais après les vents et la pluie, place au nettoyage et à la reconstruction. 1500 personnes sont mobilisées en renfort par les autorités fédérales. Parmi les chantiers, remettre en état le réseau électrique, jusqu'à 4 millions de foyers ont été coupés du réseau. Une opération qui peut durer plusieurs jours dans certains endroits et plus encore dans les quartiers pauvres. Une étude de l'Université de Géorgie montre en effet, après avoir analysé les données de 15 millions de personnes, que la vitesse des réparations dépend grandement des revenus du foyer. Si ces revenus se trouvent dans les 20% les plus bas, il faut attendre une journée de plus. Les auteurs proposent une explication. Ces foyers, dont les habitations de moins bonne qualité sont déjà plus vulnérables aux catastrophes, se trouvent en plus loin des infrastructures sensibles et des gros nœuds du réseau. Or, la doctrine incite à réparer ces derniers en priorité. Ce délai entraîne alors un cercle vicieux. Les longues coupures occasionnent des pertes de nourriture, moins d'accès à l'eau courante et moins d'équipements pour lutter contre l'humidité stagnante et les moisissures.
Précision de Simon Rosé. Les catastrophes naturelles se multiplient partout dans le monde. Au Népal, 59 morts et 44 disparus dans des inondations. Des fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain, un phénomène aggravé par le changement climatique. Plus de 3000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour tenter de retrouver les disparus. Et puis on referme ce journal avec une page sport. Match nul 1-1 entre Monaco et Montpellier. C'était en Ligue 1 de football. 2-1, excusez-moi. Monaco a gagné le match au final. C'était en Ligue 1 de football, donc plutôt dans la soirée. Lille a écrasé le Havre 3-0 avec un triplé de l'attaquant canadien Jonathan David. En Angleterre, Liverpool prend la tête de la Première Ligue après une victoire sur Wolverhampton. Et puis du cyclisme, puisque ce week-end se déroulent les championnats du monde de la course en ligne. Avant les hommes, demain, dimanche, les femmes ouvraient le bal à Zurich, en Suisse. C'est la Belge Lotto Kopecky qui s'est imposée. Elle conserve sa tunique arc-en-ciel. Le podium est complété par l'Américaine Chloé Digert et l'Italienne Elisa Longo-Borghini. Presque 23h10 à Paris, 21h10 en temps universel. L'information revient dans 50 minutes.